Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité des laboratoires de Muse, Montpellier Université d'Excellence. Il en est des clowns, des chats, des lunes, des pilotes, des rouges ou des mandarins. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est un drôle de zèbre. Toujours tiré à quatre épingles dans son costume rayé, la nageoire toujours bien coiffée, il est ce que les scientifiques appellent un organisme modèle. Très prisé pour la recherche en raison d'une petite panoplie de particularités sur lesquelles nous prendrons le temps de nous arrêter, le poisson zèbre révèle cette fois un nouveau super pouvoir. La capacité de s'auto-régénérer après l'amputation d'un de ses membres. Danio, c'est son petit nom. Danio, donc, est à coup sûr le héros du prochain DC Comics. Notre invitée du jour nous en dit plus sur cet incroyable talent. Elle est directrice de recherche à l'INSERM. Farida Djouad, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Certaine qu'elle nous dissimulait sans le savoir un super pouvoir, nous lui avons coupé la langue. Vous allez voir, c'est incroyable. Aline Perriot, bonjour.
Magie, bonjour.
C'est incroyable. En fin d'émission, et pour dire au revoir à l'année 2021, nous vous proposons un petit medley de nos différents reportages. Plateforme Gemini, robot patient ou musée d'anatomie, nous vous proposons donc un best-of. Allume la science, vous êtes au courant, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56.
Alors Farida Djouad, pour commencer, on commence toujours par une question très basique. Alors ce poisson zèbre, il ressemble à quoi ?
Bah, tout simplement, ce poisson, comme son nom l'indique, est un poisson rayé de 2 cm que l'on trouve dans de nombreuses animaleries. Au stade larvaire, le stade auquel on travaille, c'est un modèle qui est proche d'un têtard de 2 mm.
Et alors, qu'est-ce qu'il a ? Donc, j'ai dit en introduction qu'il était intéressant pour la recherche. Donc, on va venir à sa petite particularité qui vous intéresse tout particulièrement. Mais il est utilisé, comme on l'a dit, comme organisme modèle. Alors, pourquoi que...
Alors, il présente de nombreux intérêts pour les scientifiques, tels que son développement externe est très rapide. Et il est également transparent, ce qui nous arrange beaucoup, parce qu'on peut suivre comme ça, à l'état larvaire, de nombreux types cellulaires par transparence. En plus de ses avantages, il possède 70% de gènes communs avec l'homme. Donc ça, c'est un avantage considérable.
Assez surprenant. Et donc, on l'a dit, il a cette capacité de régénération. Et donc, c'est sa nageoire caudale. Donc, c'est la nageoire qui est sur le dessus de son corps, c'est bien ça ?
À l'arrière,
d'accord. Donc, c'était même pas ce que j'allais dire. Ce pouvoir de régénération, c'est uniquement sur cette nageoire caudale ou sur
d'autres
parties ?
Alors non, il possède la capacité de régénérer de nombreux tissus, donc la nageoire comme on vient de le dire, mais aussi sa rétine, sa moelle épinière et son cœur.
Et alors, cette fameuse nageoire, donc vous l'avez située, c'est vrai qu'on ne l'imaginait pas forcément au bon endroit. Donc, concrètement, quel avantage ça a pour lui dans la nature de pouvoir régénérer sa nageoire caudale ? À quoi elle lui sert déjà ?
Absolument. Donc, on peut imaginer qu'il vit ce poisson dans un environnement hostile. Il est exposé à des prédateurs. Cette capacité de régénération est un avantage pour pouvoir survivre dans un environnement hostile. Voilà.
Alors, donc vous, pendant votre étude, vous avez observé donc cette régénération au stade larvaire et vous avez vu qu'il fallait seulement 3 jours pour qu'il fasse repousser donc cette nageoire. Est-ce que toute sa vie, ça va se passer comme ça ? Il faudra seulement 3 jours ? Est-ce qu'il est limité ? Est-ce qu'au bout de 2 ou 3 fois, il ne peut plus la régénérer ? Comment ça se passe ?
Alors, ce poisson peut régénérer effectivement sa nageoire caudale tout au long de sa vie. Donc, au stade larvaire, ce processus dure seulement 3 jours. Donc plus il va être âgé et plus ce processus va être long. Mais au stade larvaire, il peut régénérer sa nageoire plusieurs fois après l'amputation.
Alors cette repousse, justement, cette régénération de la nageoire, elle est rendue possible parce que vous appelez un blastème. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est que ce blastème ?
Oui, alors c'est la structure un petit peu mystérieuse, ce blastème de régénération. C'est un amas de cellules qui est capable de se multiplier et de se diversifier pour former ensuite le tissu donc, qui nous intéresse, la nageoire. Donc c'est une structure transitoire, on dit, et hétérogène de par la composition des cellules.
Et ces fameuses cellules, justement, qu'est-ce qu'elles sont de particulier ? On parle de cellules indifférenciées, c'est ça ?
Alors, si on, donc comparativement à d'autres types cellulaires comme les hépatocytes, les muscles qui sont des cellules différenciées, les cellules indifférenciées sont des cellules qui n'ont pas une fonction ou une morphologie bien définie.
Est-ce que c'est la même chose que les cellules souches ou c'est différent?
Alors, les cellules souches ont des cellules indifférenciées, mais l'inverse n'est pas vrai. Toutes les cellules indifférenciées ne sont pas des cellules souches.
D'accord.
Très bien. Alors, Farida, ça fait un petit moment que vous vous intéressez donc à cette question. Ce n'est pas la première étude que vous sortez. Et dans un premier temps, avec votre équipe, vous vous êtes intéressé au rôle joué par un type bien précis de cellules, les macrophages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces cellules et ce que vous avez mis en lumière?
Absolument. Donc effectivement, on a mis le rôle des macrophages. Donc les macrophages sont des cellules du système immunitaire qui sont recrutées, mobilisées sur le site de la lésion très rapidement après une amputation. Nous avons tout d'abord montré que si on enlève, si on supprime ces cellules immunitaires que sont les macrophages, on perd la capacité de régénération de la nageoire caudale. Donc, nous avons ensuite montré par quel mécanisme ces cellules immunitaires pouvaient être impliquées dans le processus de régénération. Et on a montré qu'elles sécrétaient des facteurs, des cytokines pro-inflammatoires, qui permettaient la prolifération des cellules du blastème, sa formation et ainsi la régénération de la nageoire caudale.
Mais justement, déjà dans une précédente étude, vous aviez montré que ces fameux macrophages, ils étaient indispensables à la formation du blastème parce qu'ils sont en quelque sorte, vous dites, les chefs d'orchestre des processus inflammatoires qui permettent ensuite au blastème de faire proliférer ces cellules. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi le blastème a besoin d'un processus inflammatoire pour se développer ?
Oui, alors effectivement, il a besoin d'un processus inflammatoire, mais finement régulé. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'orchestration. Les macrophages vont être recrutés sur le site de la lésion et s'activer sur ce site pour sécréter des facteurs qui vont, eux, orchestrer la prolifération des cellules du blastème.
Très bien. Alors là, donc, on va revenir sur l'étude que vous avez sortie donc, dernièrement dans Nature Communication, donc en novembre dernier, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Cette fois-ci, vous êtes allé plus loin et vous vous êtes intéressé à une nouvelle population de cellules. Alors là, elles ont un nom un peu plus compliqué, les cellules dérivées de la crête neurale. Alors là encore, on va vous demander de nous expliquer ce que c'est et à quoi elles servent, ces cellules.
Oui, alors c'est un petit peu compliqué en effet. Donc ces cellules de la crête neurale sont présentes chez tout. Les vertébrés, c'est une invention des vertébrés, comme certains diront. Ces cellules sont importantes pour le développement de l'embryon. Elles apparaissent de manière transitoire lors de la formation du tube neural dans sa région dorsale et vont donner naissance comme ça à de très nombreux types cellulaires qu'on va retrouver chez chacun des individus.
Je reviens juste sur la question, vous dites qu'elles apparaissent de façon transitoire, ça veut dire qu'elles disparaissent après le stade embryonnaire?
Donc elles vont donner des dérivés, d'autres types cellulaires différenciés qui vont constituer les individus.
Et justement, donc, dans cette étude, vous montrez que ces dérivés de la crête neurale, elles jouent aussi un rôle de chef d'orchestre en dialoguant avec les macrophages,
absolument,
dont on a parlé avant, et les autres cellules. Mais comment est-ce qu'elles font pour dialoguer et échanger des informations, toutes ces cellules?
Absolument. Donc la première observation qu'on a pu faire, c'est qu'en présence des cellules de la crête neurale, on a un recrutement, la mobilisation des macrophages dont je parlais un peu plus tôt, se fait grâce à ces cellules dérivées de la crête neurale. Ces cellules vont sécréter des facteurs qui vont permettre un recrutement des macrophages. Ensuite, ces deux types cellulaires, les macrophages et les cellules de la crête neurale, vont se toucher, dialoguer, faire des contacts et ainsi s'influencer, se permettre entre elles de changer de fonction qui va être nécessaire au processus de régénération.
Alors, donc, ces observations, vous les avez faites sur le poisson zèbre, comme on l'a dit. Vous avez utilisé notamment une méthode qu'on appelle celle du séquençage de cellules uniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui, alors le séquençage de cellules uniques nous permet de connaître la diversité cellulaire des tissus. On a pu comme ça préparer des tissus afin de connaître le profil ARN au niveau d'une seule cellule et de cette manière-là déterminer la cartographie, l'identité des cellules qui composent le fameux blastème de régénération dont on a parlé.
Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, dans la question des cellules dérivées de la crête neurale, elles sont communes à tous les vertébrés, tout comme les macrophages. Donc, on a tous, et nous, les mammifères également, des cellules de la crête neurale. Alors, pourquoi est-ce qu'a priori, on ne parvient pas, nous, à régénérer nos membres ?
Alors, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au cours de ce processus de régénération, les cellules dérivées de la crête neurale, qui vont permettre la régénération chez les zébrafiches, c'est qu'ils vont permettre de réactiver un ensemble de facteurs qui va être nécessaire au processus de régénération. Donc bien que nous ayons ces cellules présentes, hein, les cellules dérivées de la crête neurale, c'est ce phénomène de reprogrammation des cellules qui ne se met pas en place chez nous les mammifères incapables de régénérer.
Et on sait pourquoi il ne se met pas en place ou ça reste inconnu ?
Alors c'est tout, c'est l'objet de nos études actuelles en fait. On essaie d'aller dans d'autres modèles mammifères et comprendre quelles sont ces étapes de reprogrammation nécessaires au processus de régénération.
Donc inversement, est-ce qu'on a observé ce processus chez d'autres animaux capables de se régénérer ? Est-ce que vous essayez de comparer comme ça, d'étudier différents animaux qui ont cette capacité pour essayer de trouver un facteur commun entre ces animaux ? Bon, on connaît le lézard, hein, je ne sais jamais prononcer.
L'axolote,
merci, je ne sais jamais prononcer le nom de cet animal. Est-ce que vous essayez de trouver comme ça un facteur commun à tous ces animaux qui pourraient expliquer ce super pouvoir ?
Absolument, donc des études antérieures chez la salamandre avaient montré le rôle de cellules de Schwann, également des cellules dérivées de la crête neurale, mais leur interaction, leur dialogue avec les macrophages n'avait jamais été mis en évidence. D'où la différence avec notre étude. Mais on peut dire effectivement que les cellules dérivées de la crête neurale sont un point commun à ces processus de régénération qu'on a pu décrire chez d'autres organismes capables de régénérer.
Mais du coup, est-ce que ces cellules dialoguent entre elles ? Vous parlez de la salamandre de la même façon. Est-ce que c'est le facteur dont vous parlez, l'anoréguline 1, qui permet de dialoguer les cellules dans votre étude ? Est-ce que c'est le cas également chez la salamandre ?
Oui, c'est une bonne question. Donc, ça n'a pas été mis en évidence chez la salamandre. Le dialogue macrophage, cellules dérivées de la crête neurale, n'a pas été étudié ou investigué dans d'autres modèles. Ce serait intéressant, effectivement, de regarder cela.
De vérifier s'ils parlent le même langage
exactement.
Sur le modèle. Mmh. Et vous dites, donc, dans le communiqué de presse qui fait suite à votre étude, qu'elle ouvre des pistes pour promouvoir la régénération de certains tissus, soit dans le traitement des maladies neurodégénératives ou encore dans l'arthrose. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer arriver à soigner ces maladies grâce à ces travaux sur le blastème et la régénération de la nageoire caudale du zébrafiche ?
Donc nos travaux sont encore un peu loin de ce type d'application, mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est que l'identification d'une cellule chef d'orchestre et des facteurs qu'elle sécrète pourrait nous permettre à terme de réactiver des mécanismes endogènes et comme ça réactiver la régénération de tissus lésés dans ces maladies neurodégénératives que vous avez citées, ou bien dans le cas de l'arthrose où les tissus articulaires sont dégradés.
Ça voudrait dire qu'intrinsèquement, c'est une capacité que les mammifères ont également, mais qu'ils ne savent pas mettre en œuvre. On pourrait juste appuyer sur le bouton « on » pour leur permettre de se régénérer.
Notre hypothèse de travail, effectivement, c'est que les espèces capables de régénérer sécrètent des facteurs qui orchestrent ces processus de régénération. Donc, on aimerait vérifier si la libération, la production de ces facteurs nécessaires au processus de régénération chez ces espèces-là pourrait réactiver, comme je vous l'ai dit, des mécanismes endogènes chez l'homme.
On n'est pas au point pour la langue, on va attendre un petit peu.
Alors, quelle autre application, justement, on pourrait imaginer chez l'homme ? Alors, sans faire de science-fiction, on peut imaginer un jour pouvoir permettre la régénération d'un membre ou c'est vraiment impossible ?
Non, la régénération d'un membre, je pense qu'on n'y sera pas, non.
D'accord, donc ça reste dans les DC Comics, alors, c'est très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Farida Djouad, d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci à vous.
Et nous passons maintenant à notre séquence reportage. Et en cette fin d'année où les rétrospectives sont de saison, nous vous proposons un petit best-of de nos meilleurs moments en reportage.
Il faut imaginer, quand on visite ce lieu, qu'on est là au 19e siècle avec les étudiants. Je suis Marie-Angeline Pinaille, régisseuse des collections à l'Université de Montpellier et je suis en charge des collections d'anatomie à la Faculté de médecine. Alors en premier, vous avez toute cette partie-là qui est consacrée aux collections dites en fluide. C'est-à-dire que ce sont des spécimens naturels, donc des pièces réelles qui ont été...
Je décris juste qu'on voit, en fait, ce sont des tranches de cerveau, c'est ça ?
C'est ça, ce sont des coupes anatomiques qui sont transversales. La particularité, c'est qu'elles ont été faites sur un même corps. Donc là, on est dans les années 1920. On commence déjà, en fait, à étudier le corps par des séries de coupes qu'on va plus tard retrouver dans le scanner.
Voilà, ces quatre grandes armoires, elles représentent des pièces naturelles, donc des restes humains. Ce sont des pièces sèches qui sont traitées au mercure et à l'arsenic, donc ce sont des pièces 19e. Les étudiants, en fait, à l'époque... avaient dans leur concours annuel, leurs examens, ils devaient réaliser des dissections. En plus de cette technicité de la dissection, il devait également être en mesure d'apporter les éléments chimiques avec le bon dosage pour la conservation de la pièce, donc mercure et arsenic.
Et ce qu'on voit là, l'appareil respiratoire, ça, ce sont des poumons aussi, des vrais poumons.
Oui. Et donc là, on est sur la tête et le cou.
C'est des vraies têtes ?
Oui. Alors là, on est devant la vitrine des crânes du monde. C'est une vitrine particulière parce qu'en fait, on a à la fois des crânes naturels, on va avoir également des moulages de crânes, et puis voilà, on a ces têtes momifiées, donc qui sont des vraies têtes, qui sont conservées ici.
Je suis la responsable de la plateforme pour insectes de quarantaine, donc qui s'appelle PIC. Là, on est juste devant le sas, donc on va pouvoir rentrer. On va devoir s'habiller, parce que pour vous expliquer, nous, ce qu'on confine, c'est des petits insectes. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des insectes sur les vêtements des gens et qu'on puisse sortir avec. Donc, on va devoir mettre une blouse et des surchaussures pour assurer le confinement.
Pourquoi vous laissez la porte ouverte de l'armoire à blouse ?
Ça, c'est juste à cause du Covid.
Pour quelles raisons, précisément, ils doivent absolument pas sortir, ces insectes que vous étudiez ici ?
Alors, c'est ce qu'on appelle des insectes nuisibles de quarantaine. Donc, ça veut dire qu'ils font partie d'une liste de la Commission européenne qui indique qu'ils ne sont pas présents dans le territoire européen et que s'ils arrivaient, ils créeraient des dégâts et des problèmes économiques. Donc, pour travailler sur ces insectes-là, on doit travailler en conditions confinées. Donc, on a pris le parti qu'il n'y ait pas de raccordement de l'eau à l'égout pour être sûr qu'il n'y ait aucun insecte qui puisse partir dans l'égout.
J'imagine que toutes les entrées et sorties possibles ont été envisagées, la ventilation, les fenêtres.
Effectivement, la plateforme a été conçue pour être complètement étanche aux insectes. Le sol a été travaillé pour ça. Les plafonds, les cloisons sont étanches, les fenêtres sont fixes. On a même pensé à boucher les sorties de gaines électriques ou les sorties d'évacuation d'eau des clims. À tout moment, je peux avoir un contrôle, un audit fait par la protection des végétaux du service régional de l'alimentation qui vient pour vérifier si je respecte bien ces règles.
Ici, c'est notre plateforme d'expérimentation.
Là, je vois un frigo avec écrit « insectes infestés ». Qu'est-ce que ça veut dire ? 23 degrés.
Alors, ce n'est pas un frigo, c'est une enceinte climatique, mais ça ressemble à un frigo. C'est dans ce type d'enceinte qu'on va faire nos manies pour avoir des conditions de température et d'hygrométrie et de photopériode contrôlées et qui est la mieux adaptée à l'expérimentation qu'on veut faire. Et infesté, ça veut dire que là, il y a une expérimentation en cours certainement dans lequel on a mis des nématodes, qui sont des petits vers ennemis naturels des chenilles, pour voir comment ils font pour tuer la chenille et pour voir si on pourrait s'inspirer d'eux pour créer des nouveaux moyens de lutte contre les chenilles.
On n'en a pas parlé, mais est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que la lutte biologique ?
La lutte biologique, c'est une façon de lutter contre les nuisibles sans utiliser de pesticides chimiques. Par exemple, faire des lâchers de prédateurs, comme avec les coccinelles pour tuer les pucerons. Ça peut être de la confusion sexuelle en utilisant des hormones pour déboussoler un peu et perturber les accouplements. Ou ça peut être utiliser des ennemis naturels, des bactéries ou des virus, qui naturellement tuent ces insectes.
C'est un vrai carnage chez vous, en fait.
Alors la simulation en santé, c'est quelque chose qui apparaît relativement, nouveau. Nouveau parce qu'on en parle beaucoup, parce que vraiment ça a été diffusé maintenant. En fait, on apprend simulation depuis Hippocrate. On va aller très très loin. La réflexion de la simulation, c'est quoi ? C'est mettre la personne en situation, puis après, on va débriefer. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de la simulation ? Ben, on agit. On agit et le fait d'agir va permettre de mobiliser toutes les connaissances que l'étudiant a finalement acquis et va mobiliser en situation.
Eh bien, on vous suit. C'est parti.
Ce mannequin, il est, que vous allez voir, c'est Simane 3G. Simane 3G, il a plein de particularités. C'est qu'il est capable de retransmettre finalement tous les signes qu'un homme peut avoir réalisé et effectué. D'abord, dans le domaine relationnel, il est capable de parler. Il est capable d'avoir de l'émotion aussi, parce qu'il est capable de pleurer. Il est capable d'avoir des sécrétions. Il est capable d'être présent. Et l'évaluation de la conscience, elle va se faire parce qu'il ouvre les yeux, il cligne des yeux. On va même pouvoir évaluer ses réflexes pupillaires. Donc, vous voyez, c'est extrêmement pointu comme type de robot en quelque sorte.
Comment ça fonctionne alors ?
Alors le mannequin, lui, il est programmé. Il est programmé pour pleurer, vomir, avoir une langue qui gonfle, avoir des souffles particuliers. Tous les jours, je peux changer ce patient. Je peux lui faire un souffle de raidissement aortique, comme je peux lui faire aussi une insuffisance cardiaque avec un souffle majeur. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire dans le cadre d'une histoire virtualisée dans un espace finalement qui lui est virtualisé. Donc on est loin du patient. Alors ça c'est assez chouette parce que le fait d'être loin du patient, ça veut dire qu'à ce moment-là, on apprend sans danger pour le patient lui-même.
On ne l'a pas décrit le mannequin, peut-être qu'on peut prendre deux secondes. Il a la blouse du patient d'hôpital, on est dans une pièce qui ressemble à une chambre d'hôpital. Il est vraiment très ressemblant en fait.
Alors ça c'est intéressant parce que on s'est dit, est-ce que finalement notre humanoïde, il faut qu'il soit comme un homme ou est-ce qu'il soit ressemblant de l'homme ? Je pense qu'il faut qu'il soit très proche du symbole, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit tout à fait comme l'homme. C'est-à-dire que le fait que l'étudiant face au mannequin est obligé de faire une démarche de ressemblance. Il faut forcément que ça passe par une mentalisation. Et cette mentalisation, elle va être produit par cet écart un peu à la réalité vraie, quoi, en quelque sorte. Donc il ne faut pas que ce soit tout à fait vrai, il faut que ce soit de la simulation.
Donc là, on a soulevé la blouse et on a vu effectivement un zizi.
Et vous avez vu un zizi, hein, en effet. Alors il y a des zizi de garçons et il y a des zizi de femmes. Il suffit simplement de demander aux techniciens finalement de changer. Voilà, c'est des zizi qui sont examinables, d'accord, et qui vont pouvoir être même sondables. Le mannequin, il peut faire pipi à la demande. On est vraiment dans l'authenticité. Alors ici, on est dans le stockage du petit matériel. Là, on est sur de l'apprentissage du geste technique lui-même.
Par exemple, là, on a un bras. Je peux le toucher ?
Bah,
d'accord, donc on a des parties plus molles là, qui sont destinées à être piquées, par exemple.
Voilà, à ponctionner.
Comment on faisait avant d'avoir des plateformes de simulation ?
Eh bien, on apprenait sur le patient, mais on avait le temps de l'apprentissage.
Et est-ce qu'il y a encore certains gestes techniques complexes qui sont toujours pas accessibles à la simulation ? Ou est-ce que tout est possible ?
Dans l'imagination, tout est possible.
Dans la boîte, je vois qu'il y en a qui sont titrés hygiène, peinture, pistolet, sécurité à l'usine. Est-ce que c'est des films qui sont utilisés aussi dans l'enseignement technique ?
Oui, l'intérêt aussi, c'est que justement, on trouve des choses vraiment de l'école des années 50, c'est-à-dire qu'on est très concret, on est très pratique.
J'avais pas imaginé que les dessins seraient aussi fins.
C'est une avancée technique vraiment très forte pour l'époque, parce qu'ils vont jouer en plus sur quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans un manuel. C'est d'allier à la fois des photographies, mais aussi des dessins, des textes. Il y a des graphiques, chose qui n'existait absolument pas d'ailleurs dans les manuels scolaires.
Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais il n'y a que de l'image, il n'y a pas de son.
Oui, tout à fait.
Là, je suis impressionnée vraiment de la qualité de l'image.
Ouais.
Alors là, il y en a un qui s'appelle « Leçon de morale ». Ça aussi, c'est le témoignage d'une époque.
Et là, il y a trois boîtes rouges qui s'appellent « Avant d'aimer numéro 1, numéro 2 et numéro 3 ». On peut savoir ce qu'il y a dedans.
Tatiana a ri.
C'est moi qui ai passé. Cette série-là, justement, en couleur, est assez intéressante parce que c'est de l'éducation sexuelle.
Et Lucie l'a ouvert, on va aller regarder ce qu'il y a dessus. Il y en a qui m'intriguent quand même. Ce que tout assuré social doit savoir, ça s'adresse à des enfants.
Il y a tous les ministères qui se mettent à faire ça. Donc là, par exemple, le ministère des Affaires sociales, se dire de connaître ce qu'est la sécurité sociale, les caisses d'allocation familiale, comment ça fonctionne, comment on va même au bureau de poste, etc. Des choses vraiment de la vie quotidienne est expliquée ici dans ces films fixes, parce qu'on a beaucoup d'associations aussi. Alors il y a les ministères, puis il y a les associations. Par exemple, on en a des très drôles sur... l'association de sauvegarde de la morue, qui, là, on aime beaucoup ce film, et qui nous explique pourquoi il faut absolument manger de la morue et qu'est-ce que la morue. Et donc, on a tout l'historique de la morue et sa géographie pour ensuite nous expliquer que c'est un bon produit.
Universal has given Earthquake its maximum effort.
Là, on est sur le domaine de Restinclière. Sandrine Baudin, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu pourquoi on est là avec un sismomètre ?
On se situe à quelques kilomètres au nord de Montpellier. Et donc, nous avons choisi ce site pour l'installation d'une station sismologique permanente qui est intégrée au réseau national de sismologie et géodésie français. Et il a été installé et mis en fonctionnement en octobre 2020.
Il y a une grande armoire.
Oui, alors c'est l'armoire de commande qui gère l'acquisition et le stockage des données ainsi que le transfert des données de la station sismologique qui est, elle, enterrée quelques mètres plus loin dans un puits sismique dans une profondeur de 6 mètres.
Le puits, c'est ce qu'on voit ici.
C'est une buse de béton de diamètre d'un mètre, recouverte d'un couvercle en acier. Et donc, à l'intérieur, en fait, tout ça est fait pour protéger le puits sismique qui, lui, a un diamètre de 30 cm. Et le sismomètre, c'est un petit peu comme un suppositoire de 25 cm de diamètre que l'on vient faire coulisser jusqu'à la fin du tubage, en fait. Il est recouvert de sable pour justement atténuer ce bruit de fond anthropique, c'est-à-dire toutes les activités humaines au maximum.
Et à quoi il ressemble alors ?
C'est un cylindre qui fait à peu près 40 cm de haut sur 25 cm de diamètre, avec un gros connecteur pour passer le câble de données, en fait, et le câble remonte le long du puits sismique.
Mais qu'est-ce qui fait que ce cylindre, justement, enregistre tous les mouvements du sol ?
Alors, les capteurs sensibles, il y en a trois, en fait, qui sont dirigés selon l'axe nord-sud, est-ouest, et un capteur qui est en Z. Et en fait, quand les ondes vont se déplacer, ça va faire ça va induire de l'électricité et ça va faire déplacer des éléments sensibles à l'intérieur du sismomètre. Et c'est ce déplacement d'éléments sensibles qui est converti, en fait, en microvolts. Alors, le sismomètre mesure le déplacement des ondes sismologiques. Donc, on a la mesure du déplacement, la direction, s'il y a un événement sismique. Cette station sismologique, elle fait partie du réseau national français qui est composé de 172 stations. Et donc, effectivement, cet appareil mesure tout événement sismique. Donc, ça peut être des séismes locaux, mais aussi on enregistre des séismes lointains, au Japon ou autre.
On essaye souvent de trouver un environnement très calme pour les instruments, afin justement d'avoir le maximum d'informations sur le mouvement du sol. Christelle Tibéry, directrice de recherche au CNRS. Des séismes qui se produisent au Japon ou en Amérique du Sud, on ne peut pas les sentir, nous, parce que c'est des déplacements qui sont extrêmement faibles. Et ces instruments doivent être mis dans des endroits très très calmes pour pouvoir justement faire ressortir ce signal, hein, sur le vent, les personnes qui marchent à côté, etc. Donc c'est pour ça qu'on choisit des endroits toujours très très calme et assez éloigné de toute problématique anthropique, en fait.
Et du coup, nous, quand on marche, par exemple, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est perçu par le sismomètre ?
Oui, on va nous voir aujourd'hui sur le signal. On va voir qu'on était là. Et s'il y a malheureusement un séisme qui se produit au Japon, on ne pourra pas l'enregistrer, on ne le verra pas. On aura parasité le signal.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Anne de Melandre pour la réalisation de cette émission. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.